Clarté biblique, une émission présentée par Jean-François Sécolier.
En puissance et de l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, je voudrais vous parler plus précisément des prophéties concernant l'histoire, c'est-à-dire les prophéties historiques, ce que la Bible nous apprend au travers des prophéties de ce qui devait arriver et qui est arrivé, et de ce qui doit encore se passer très bientôt. Nous commençons par une petite série de versets, dont le premier est Actes, chapitre 1, versets 5 à 8. Il est dit ceci, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Voilà, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu, chapitre 24, versets 30 à 44. Matthieu 24, versets 30 à 44. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera moins, point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Marc chapitre 13 verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ça reprend un peu ce que nous avons dit dans le texte précédent. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20, « Ne méprisez pas les prophéties. » Voilà, alors nous reprenons ce qui a été dit par les disciples. « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et nous allons commenter cette phrase. Les disciples, comme tout le peuple d'Israël, avait une préoccupation majeure, celle de se libérer du joug pesant des Romains. Les scribes, les pharisiens et tout le peuple, y compris les disciples, aspiraient à ce qu'un libérateur envoyé par Dieu boute hors de leurs frontières les soldats romains afin de recouvrer leur liberté. Ce qui est bien normal, nous avons, nous, connu l'occupation. Ce n'est pas si lointain, vous vous en rappelez sans doute. Je poursuis. Les religieux ne voyaient pas en Jésus cet homme puissant, majestueux, impressionnant qu'ils attendaient. Jésus avait un aspect tout à fait quelconque, ce qui n'excuse en rien le fait d'avoir voulu le supprimer pour se débarrasser d'une personne gênante qui contrariait leurs intérêts propres. Jésus-Christ était parfaitement innocent et il le savait. Il savait aussi que c'était un prophète venu de Dieu. Nicodème lui-même lui dira « Nous savons que tu es un prophète venu de Dieu ». Il ne dit pas « Je sais que tu es un prophète », mais « Nous savons ». Rien dans la vie de Jésus n'était condamnable, et par conséquent, c'est en connaissance de cause qu'ils ont tué un innocent qui a manifesté sa puissance en ne faisant que du bien autour de lui. Tous les disciples avaient en tête l'espérance d'une libération et ne comprenaient pas que Jésus, ayant manifesté la puissance de Dieu, ne s'engage pas dans un combat contre cette puissance dominatrice des envahisseurs. Lorsque Jésus-Christ est mort, tous leurs espoirs se sont évanouis et ils furent tous tristes, comme par exemple les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il est vrai que Jésus avait la capacité de venir en aide à son peuple. La puissance divine qui était en lui était suffisante pour expulser de leur territoire l'occupant. Mais il n'en fut rien. Le combat de Jésus-Christ s'inscrit dans une autre vision, dans une autre dimension. Il s'inscrit dans un combat tout autre, un combat spirituel, un combat d'obéissance, de sacrifice, un combat qui entre dans le plan de Dieu de façon à ce que les prophéties soient accomplies. La liberté que Jésus est venu donner aux hommes est une liberté par rapport au péché, par rapport aux puissances démoniaques qui écrasent les hommes. Ce combat-là est bien supérieur au combat terrestre. Les luttes et les combats terrestres sont d'ailleurs directement liés aux luttes et combats célestes. Les combats terrestres se gagnent d'abord dans le ciel. C'est d'abord au niveau spirituel que les combats doivent se mener pour que sur la terre les victoires soient remportées. Mais les disciples ne comprenaient pas cela. Alors pour illustrer ce propos, je voudrais vous lire une petite histoire, si j'ose dire, un fait qui s'est passé et que l'on trouve dans Exode, chapitre 17, versets 8 à 14. Il est écrit ceci, « Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Voilà donc cette histoire qui nous apprend qu'à l'heure de la bataille, Moïse se tint sur le sommet de la colline. Mais il ne s'est pas placé là pour jouir du spectacle. Il est là avec la verge de l'Éternel pour entrer dans un combat spirituel. Tenir les mains levées est bien entendu pénible. Et intercéder devant Dieu des heures durant est également pénible. C'est pourtant là que se gagnent les victoires. La victoire gagnée dans le ciel donne la victoire sur la terre. Eh bien, nous allons faire une pause musicale et je vous retrouve tout de suite après. À très bientôt et nous verrons ce qui est dit dans Matthieu 24. On prendra quelques passages. À tout de suite. Donc en Matthieu 24, Jésus parle de son retour en gloire, donc après l'enlèvement de l'Église. Il s'adresse ici au peuple juif et non pas à son Église. Il faut discerner entre les prophéties données pour l'Église et celles qui sont données pour le peuple juif. Toutes nous intéressent, bien entendu, mais il est bon de ne pas tout mélanger et de ne pas se tromper. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche de même. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et enfin, ne méprisez pas les prophéties. Ça, je reprends ici les textes que nous avons lus tout à l'heure. Dieu seul sait le moment précis du retour en gloire de son Fils Jésus-Christ. Il en connaît l'année, le mois, la semaine, le jour, l'heure, la minute et même la seconde. Ce moment précis que Dieu seul connaît ne nous sera jamais communiqué. Et il est inutile de spéculer sur des calculs savants pour essayer de trouver cette date. Nous ne la trouverons pas. C'est un secret que Dieu garde pour lui-même. Mais dans son amour, Dieu ne veut pas que nous soyons pris au dépourvu. Ce n'est pas un Dieu qui va prendre ses enfants à l'improviste, par surprise, par traîtrise, diront certains, sans nous avoir prévenus et sans nous avoir donné un certain nombre de signes afin que nous soyons prêts. Il est donc important d'examiner les prophéties qui concernent la fin des temps et de ne pas les mépriser. Alors nous allons voir maintenant les prophéties accomplies, les prophéties déjà réalisées concernant le retour de Jésus d'un point de vue historique. Matthieu chapitre 24, verset 14. C'est le premier point et il s'agit en fait de la prédication de l'Évangile dans le monde. Il est dit donc dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » La proclamation de l'Évangile aujourd'hui s'est répandue sur toute la surface de la terre. Les moyens technologiques modernes nous permettent d'explorer les activités humaines, y compris dans les lieux les plus reculés, et donc de déceler la présence de tribus qui étaient encore inconnues il y a quelques décennies. Les satellites ont photographié et filmé tous les recoins de notre planète. Toutes les peuplades ont été contactées, recensées, et les moyens de communication modernes leur sont parvenus. Des missionnaires ont pu leur apporter, les approcher et leur parler de Jésus-Christ, qu'ils aient accepté le message ou pas. Les téléphones portables sont partout et avec eux l'accès à Internet et donc à la connaissance universelle. L'Évangile aujourd'hui a été prêché partout et a pénétré toute la surface du globe jusqu'aux plus petits clans. Des associations comme Wycliffe ont traduit les évangiles dans toutes les langues ou dialectes connus, et semble-t-il, il n'en manque aucun. La proclamation de l'évangile dans le monde entier est un signe incontestable de la proximité de la fin des temps. C'est donc la fin d'une ère. C'est donc la fin d'une ère ou d'un âge que la Bible qualifie de la fin des temps. Si la Bible parle moins de l'enlèvement de l'Église que du retour en puissance et en gloire de Jésus-Christ, cela tient à deux raisons. La première est que Jésus s'adresse à des Juifs alors que l'Église rassemble des personnes de toute nationalité, de toute culture. Elle est en ce sens universelle. La seconde raison, me semble-t-il, tient au fait que le retour glorieux de Jésus-Christ annonce une ère véritablement nouvelle qui bouleversera le monde dans tous ses aspects politiques, climatiques, économiques, financiers, instaurant une nouvelle justice, etc. Jésus-Christ reviendra pour instaurer sa gouvernance à lui sur toute la terre. C'est donc un bouleversement majeur dans l'histoire de l'humanité. Donc le premier point, le premier signe, si vous voulez, du retour imminent de Jésus-Christ, c'est d'abord la prédication de l'Évangile dans le monde entier. Le deuxième point, le deuxième signe, on le trouve dans Ézéchiel au chapitre 37, versets 1 à 23. Voilà ce qui y est dit. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire rentrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Je répète, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. Pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront « Ne nous explique « Qu'auras-tu pas ce que cela signifie ? » Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi et ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Donc, je retiens dans ce passage, un peu long, c'est vrai, que tous ces eaux dont il est question ici, en fait, représentent toute la maison d'Israël. Dieu dit clairement, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Il dit aussi, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Et enfin, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, plus d'une centaine de nations, où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Voilà donc ce texte un peu long mais tellement explicite. Les Juifs en exil ont perdu toute vie spirituelle et sont donc comme ces cadavres décrits par Ézéchiel, mais Dieu veut leur redonner vie. Chose extraordinaire, éparpillés à la surface de la terre, ils reviennent dans leur pays, le pays d'Israël, après un exil de 19 siècles. 19 siècles. Ils ont été éparpillés partout pendant ce temps-là. Et les choses ont été bouleversées puisque le 14 mai 1948, David Ben-Gourion, président du Conseil national juif, proclame la naissance de l'État d'Israël à la face du monde. Dieu a donc rétabli son peuple comme il l'avait promis dans le texte que nous venons de lire. La prophétie biblique se réalise ainsi à la lettre. Personne n'a pu s'opposer à la création de l'État d'Israël et au retour des Juifs dans leur pays, car personne ne peut s'opposer à la volonté suprême de Dieu. Jamais dans l'histoire des nations, on a vu une civilisation disparue rebâtir son empire. Que ce soit les Hittites, les Assyriens, les Mèdes, les Scythes, les Sumériens, les Séleucides, etc. Aucune de ces civilisations antiques n'est reparue. Aujourd'hui encore, l'Empire romain, l'Empire britannique, l'Empire colonial français, l'URSS, etc., plus près de nous, donc, ne referont surface. C'est un passé qui est définitivement révolu. Et il faudrait que les Anglais, actuellement, avec leur histoire de Brexit, s'en souviennent. N'en déplaise aux nostalgiques de ces pays. Le retour des Juifs dans leur patrie est un phénomène miraculeux, inédit, irréversible et unique. Alors, comme nous n'avons pas le temps d'examiner d'autres textes concernant ce phénomène historique, je vous livre quelques passages bibliques que vous pourrez examiner tranquillement si vous le souhaitez. Alors, si vous avez de quoi noter, prenez donc en note ces références. Ésaïe, chapitre 66, verset 8. Ésaïe, chapitre 66, verset 8. Ézéchiel, chapitre 11, verset 17. Chapitre 20, verset 42. Chapitre 36, pardon, verset 24 et 28. Et chapitre 38, versets 24 et 28 également. Je les redis rapidement. Ésaïe, chapitre 66, verset 8. Ézéchiel, chapitre 11, verset 17. Chapitre 20, verset 42. Chapitre 36, les versets 24 et 28. Et chapitre 38, versets 24 et 28. Voilà, le temps imparti étant terminé, la semaine prochaine, nous poursuivrons sur les prophéties historiques. En attendant, je vous souhaite d'être bénis, soyez encouragés. Merci de votre fidélité et de votre écoute. À très bientôt. Au revoir.